Alexandre Billiard, qu'on entendait dans une chanson intitulée « Riel ». La réimpression du tome 3 de « Légende d'un peuple » est maintenant disponible en librairie depuis le 23 février. Et pour nous parler de ce projet d'envergure, on a la chance d'avoir avec nous le créateur, l'auteur, compositeur, interprète, conteur, conférencier, bon siffleur également qu'on entendait, Alexandre Billiard. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et celui qui signe les textes du tome 3, l'historien, professeur, auteur Gilles Laporte. Bonjour Gilles.
Enchanté.
Enchanté moi aussi. Alors je me permets de vous vouvoyer, mais de vous appeler par votre prénom. Ça vous va?
On va faire pareil.
OK. Ben oui, j'espère bien. Alors, Alexandre, d'abord, racontez-nous en quelques phrases l'origine de Légende d'un peuple, l'histoire de votre idée qui remonte à quand même quelques années.
Oui, j'ai eu l'idée en 2010, suite à une remise en question face à ce que je voulais pour mon armée. Ça faisait déjà une quinzaine d'années là, que je roulais ma bosse en tant qu'auteur-compositeur, puis... les chansons, ma fille, elle appelle ça mes chansons normales, les chansons pré-légende d'un peuple, ne me suffisaient plus. Donc, j'avais beaucoup de plaisir, mais je me voyais pas pendant 20 ans chanter « Laisse-moi pas tranquille » ou « Ici dans le ciel » à tous les spectacles. Puis, j'avais besoin de sortir de moi. J'avais entendu Richard Desjardins dire aussi qu'il trouvait que les auteurs-compositeurs de ma génération... se racontaient beaucoup, qui regardaient beaucoup vers eux. Mm-hmm. Puis ça m'avait interpellé. Puis moi qui aime tellement l'histoire, la politique, la socio, le voyage, rencontrer les gens, qui rêvait d'étudier aussi, parce que j'avais pas étudié beaucoup, malheureusement, étant donné là, que je fais de la tournée depuis 18 ans. Je me suis trouvé une façon de tout faire ce que j'aime dans un seul projet.
Et ce projet s'appelle « Légende d'un peuple ».
Absolument.
Gilles, comment la rencontre avec Alexandre s'est faite? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'embarquer dans son beau projet?
Oh, ça m'apparaît rien de moins qu'un coup de foudre, pratiquement digne d'une chanson d'Alexandre, ce qu'on fait. Écoutez, évidemment, je suis historien depuis des années. Tous les personnages, ou la plupart des personnages d'Alexandre, faisaient déjà partie de ma besace, là.
Oui.
Comme chercheur et comme enseignant. Et tout compte fait, c'est un coup de foudre pour un jeune homme, comme il l'a bien dit, de sa génération, à propos de laquelle on a toutes sortes de préjugés, mais qui était animé par une fougue, une foi et un désir d'apprendre, d'approfondir, puis surtout de rendre justice à ces personnages de notre histoire. Je dois vous dire, là, la rencontre s'est en gros déroulée dans ma classe à l'Université du Québec où Alexandre était étudiant comme étudiant en histoire. Et là, ben là, à partir de là, on a eu une communauté de vue totale et depuis, ma foi, plus de 10 ans, on se fréquente, on s'inspire mutuellement. Moi, dans mon travail comme enseignant et lui comme créateur de chansons, et ce qu'on fait, c'est un immense honneur pour moi de l'épauler, mais très modestement, en mettant un peu de chair historique ensemble autour de ces textes. Parce que c'est bel et bien, le point de départ, c'est toujours Alexandre qui conçoit les personnages, qui les explore, les sculpte, dirais-je. Et moi, ben, je dois essentiellement enrober par des faits, mettre en contexte, mais surtout toujours mettre en scène, en somme, les textes d'Alexandre, parce que ce sont des textes qui ont été expressément créés afin d'éclairer, modestement, d'éclairer, en somme, ces chansons.
Est-ce que c'est facile d'arrimer chansons et textes historiques?
Assez bien, parce qu'Alexandre a fait ses recherches, si bien que j'ai pas à ramener, là, le ramener dans la réalité. Il part toujours de textes éprouvés, à partir desquels ben, il pourrait expliquer sa méthode, mais il n'y a pas de doute que la base est toujours là. Sauf que, parfois, la poésie, hein, tout ça, fait en sorte qu'il doit faire que des allusions. Alors, mon but, moi, c'est en somme de combler les trous là où l'auditeur pourrait être devant des questions et tout le reste. Que veut-il dire par tel vers? Que veut-il dire par telle allusion? Ben, là, moi, je sens bien, parce que du point de vue extérieur, sans doute, l'auditeur veut en savoir un peu plus sur pourquoi fait-il allusion à McDonald's dans Louis Riel, pourquoi fait-il allusion à Batoche. Ben là, j'éclaire en ce moment-là, en somme, c'est un beau confort pour l'auditeur que de pouvoir, en somme, combler ses questions, trouver réponse à ses questions, puis combler sa curiosité.
Et pourquoi c'est important de connaître ceux et celles qui nous ont précédés, Alexandre, d'abord?
Bien, c'est un grand intérêt personnel d'abord. J'ai toujours aimé mes cours d'histoire, les films historiques, là, plus récemment, il y a des séries historiques et des balados aussi. Je suis un mordu de balados. Je trouve ça important. J'habite en face du parc Honoré Mercier. Qui est Honoré Mercier? J'habite à. Si j'habite à Radisson, ben c'est qui ça, Radisson? Si j'habite à Iberville. Donc, de voir les noms, de voir notre toponymie, mais ça la rend vivante. Ça met de l'humanité dans nos monuments, dans notre patrimoine bâti, dans notre patrimoine historique et humain. Je trouve ça. Puis en plus, honnêtement, on n'a rien à envier à tous les Hollywood de ce monde. Les personnages ont des histoires d'amour, d'injustice, de passion, de trahison, de combat extraordinaire, des pirates, des esclaves, des corsaires, des explorateurs, des pionnières, des chercheurs d'or. On a tout dans notre histoire. Oui. Alors, c'est ma grande source de bonheur, de divertissement.
Et c'est à l'infini, là. Gilles, vous êtes d'accord, j'imagine, avec ce qu'Alexandre vient de dire.
Oui, mais effectivement, mais il ne s'agit pas juste que d'en parler. C'est ça la richesse, selon moi, du projet qu'il a mis en branle, c'est de trouver un angle. Vous savez, les personnages peuvent être parfois plus grands de nature, mais si on s'en tient à une description, ben, ce n'est que factuel. Mm-hmm. Mais essayer de mettre dans somme de la chair autour d'un personnage, ça relève d'un travail d'artiste. Et c'est là que pour moi c'est un vrai plaisir. Ensuite, j'ai vu l'angle. C'est ce d'Iberville-là qu'il veut créer. C'est ce Paul Rose-là qu'il nous ébauche. Ben moi, je me mets à son service. Et en somme, le lecteur est avide de connaître bien sûr ce personnage, mais il est avide aussi de voir comment il est perçu, comment on peut le lire. En somme, il devient humain tout à coup avec les refrains d'Alexandre.
C'est ça, vous lui donnez de l'épaisseur, une couche supplémentaire. Parlez-nous justement de quelques-uns des protagonistes du tome 3, là.
Ça commence avec Sacagawea. Sacagawea, qui est une femme, une Snake Shoshone de l'Ouest, qui, à l'âge de 13 ans, a été enlevée par un autre clan, les Pieds Noirs, puis elle a été vendue à Saint-Louis. Saint-Louis, qui était francophone à l'époque, hein, ça a été fondé par un certain Chouteau, un poste de traite, comptoir de fourrure, très fréquenté par les Canadiens français. À l'époque, là, ça parlait pas français, là, en 1804, quand les Wessex sont arrivés là. Ça parlait plein de langages autochtones, ça parlait même espagnol, mais surtout français. Et Sacagawea s'est retrouvée là, elle, dans cette faune-là, puis elle a été engagée par les Lewis et Clark pour se rendre jusqu'au Pacifique en tant que guide, en tant qu'interprète aussi. Donc, c'était important pour eux de pouvoir communiquer avec les Premières Nations dans l'Ouest là, pour éviter toutes sortes de problèmes, là, puis aussi pour leur demander service et secours. Mm-hmm. Là-dessus, on a Denis Vanier aussi, notre poète de la rue Ontario.
Oui.
Il a passé quasiment une grande partie de sa vie au coin de Panay et Ontario.
D'ailleurs, il y a une photo, le livre est pas mal illustré, des belles photos en noir et blanc, et on le voit avec René Lévesque.
Ah, effectivement, ça c'est une photo que j'ai eue en cadeau de mariage. On voit Denis Vanier, qui est tout jeune, qui est assis et qui regarde passer René Lévesque lors de la nuit de la poésie. J'ai trouvé cette photo magnifique. Oui, il y a 20 ans, j'ai reçu ça en cadeau de mariage.
Oui, le regretté Denis Vanier, et vous signez La Star du Rodéo, c'est la chanson que vous nous proposez, et le texte aussi. Qui le raconte. Mais c'est ça, vous vous promenez dans plusieurs époques, là. Ça va de Anne Hébert, Fernand Daou, Refus Global, en passant par la grand-mère de Louis Riel.
Oui, Marianne Gaboury et Louis Riel, justement, je les ai mis ensemble, ils sont ensemble sur l'album. Je les ai découverts lors de mes nombreux voyages au Manitoba. Je me suis beaucoup attaché là, aux communautés métisses là-bas, puis à tous les franco-manitobains, parce que j'ai dû passer au moins 3 mois bout à bout là-bas à faire des spectacles, puis à écrire avec eux. Et j'ai découvert Gabriel Roy aussi quand j'étais à Saint-Boniface, mm-hmm. que je connaissais de nom et de bonheur d'occasion, mais simplement. Alors, je suis allé plus loin. D'ailleurs, j'ai fait une chanson depuis sur Gabriel.
Mais comment vous choisissez les personnalités? Parce qu'il y en a tout plein, là, qui vont faire partie de Légende d'un peuple, qui en est à son tome 6 ou 7, je crois.
Oui, j'en ai 6 de publiés, mais j'en ai 11 d'écrits.
OK.
Donc, j'ai une centaine de personnages de fait. Écoutez, comment je les ai choisis, c'est au fil des coups de cœur, des voyages, des rencontres. des suggestions de gens qui m'écrivent sur Facebook ou dans mon courriel. Je reçois des livres par la poste, une exposition, un fait divers. Cette semaine, j'ai écrit une chanson sur Mario Longhi, Gary Longhi, qui est un cycliste italien qui a fait les Paralympiques, plusieurs fois médaillé. Je le connaissais pas. Ça a donné que Marco Cagliari en a parlé dans un article parce que c'était son cousin. Puis je me suis dit, on le fait. Fait qu'on a fait la chanson ensemble, Marco et moi, cette semaine. Donc, c'est pas prémédité, c'est l'actualité, c'est un bon livre qui vient de sortir au magasin, etc.
Et pourquoi vous avez choisi de rééditer le tome 3?
Parce qu'il n'y en avait plus.
Ah! Ben c'est bon signe!
Il était discontinué depuis plusieurs mois. La plupart des tomes, les tomes 1, 2, 3, 4 sont déjà à leur 2e et 3e réédition. Le tome 3, en plus, là, il est avec la nouvelle couverture parce qu'on fait une nouvelle signature de la collection avec les magnifiques dessins de Vincent Partel, qui est un grand BDiste, un grand dessinateur. Il a collaboré avec Gilles, d'ailleurs, à une BD extraordinaire qui parut chez Septentrion il y a quelques années en lien avec notre projet. Et on a décidé de mettre de l'avant ces beaux dessins-là. Puis on va tout réillustrer tous les livres de Légende d'un peuple avec les dessins de Vincent Partel. Donc, c'est ce qui est mis de l'avant dans le tome 3, puis dans le dernier aussi dans le tome 6. Mais ils seront tous comme ça dans les prochains mois, années.
Et concernant le tome 3... Il y a Biz qui signe la préface et sa dernière phrase est très touchante. Dans un Québec amnésique, aspiré par la fuite en avant, les chansons de Légende d'un peuple m'émeuvent et me font du bien.
Ouais,
ça a dû vous faire du bien lire ça.
Oui, je suis gâté depuis 2010. Depuis que j'ai commencé à parler de ce projet-là, le capital de sympathie est extraordinaire, tant au niveau du public que des artistes qui ont généreusement mis l'épaule à la roue pour le faire connaître, que des historiens comme Gilles Laporte, qui est dévoué pour ce projet-là. Il a écrit là, une quantité phénoménale de textes pour m'épauler là-dedans. Puis toujours la générosité de revoir ce que je fais, de critiquer, de me donner des idées.
Donc, je pense que vous avez contribué à redonner le goût de s'intéresser à notre passé. Et je vais terminer. Gilles, est-ce que l'histoire a de l'avenir, selon vous?
Bon, avec des gens comme Alexandre, il n'y a pas de doute. Je veux saluer aussi son travail auprès des tout-petits. Il faut voir son dénouement. Là, j'ai vu Alexandre se déplacer pour des spectacles, faire des centaines de kilomètres pour 4-5 personnes, faire des spectacles devant une famille ou devant des classes ou créer des œuvres avec. Il fait ce qu'il faut. Et pour que l'histoire reprenne sa place, et je tiens vraiment à dire que son œuvre fait désormais partie de notre patrimoine commun. On a tout intérêt à la soutenir et à l'encourager.
Tout à fait. Est-ce que la pandémie a mis fin à vos rencontres avec le public, avec les élèves, Alexandre?
Absolument. L'année passée, à pareille date, j'avais 45 ateliers en classe qui étaient reportés. Une tournée au Mexique, tournée en France, en Suisse puis aux États-Unis, parce que notre histoire voyage et m'intéresse. Ce matin, j'ai fait un concert pour l'université de Bombay.
C'est magnifique. Alors, on va vous suivre sur votre site Internet, Légende d'un peuple tome 3. C'est de ce livre dont on parlait avec Alexandre Béliard et Gilles Laporte. Un grand merci d'avoir été avec nous, puis bonne continuation. Puis la pandémie va finir par finir, mais en attendant, on peut se rabattre sur votre œuvre. Au plaisir.
Merci beaucoup.